L'échange avec ce moine bouddhiste m'apporte énormément. Je sens qu'il touche le fond du problème. Et comme je l'ai déjà écrit, il a le don de donner une vision très simple des problématiques que je rencontre. Pour autant, j'ai envie de le mettre à l'épreuve. J'ai souvent entendu que la philosophie bouddhiste pouvait changer le monde si chacun s'y a donné un minimum. J'essaie de le coincer dans son raisonnement en lui posant une question certes naïve, mais dans la continuité de sa logique. Je ne connaissais pas son passé de scientifique, spécialisé en neurologie. Sa réponse, tirée de la philosophie bouddhiste, appuyée par des expériences scientifiques, est implacable. Vous qui êtes moine bouddhiste,
ouais.
Comment vous vous y prenez pour changer le monde?
Déjà, il faut changer soi-même, parce que c'est vrai, c'est comme un beau parterre de fleurs.
Oui.
Si vous dites, bon, toutes les fleurs sont fanées, mais si j'en mets beaucoup, ça va l'air bien.
Oui.
En fait, non, il faut que chaque fleur soit fraîche. Donc une société, ça commence par des gens qui vont mieux, et ils ont un bon équilibre émotionnel.
Oui.
Et s'ils sont mieux dans leur peau, ils seront moins vulnérables et moins agressifs, forcément, parce qu'on a tendance à se protéger si on est mal dans sa peau. Du coup, on commence à regarder vers l'extérieur, parce qu'on est moins exacerbé par le sentiment de l'importance de soi ou de moi du matin au soir. On dit, bon, bah maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour la société? Tout ça, c'est un processus. Il y a des gens qui naissent un peu plus heureux que d'autres, plus insouciants, plus solides, plus résilients, plus souriants, plus bienfaisants, mais d'autres moins. Et par contre, chacun a des qualités, des choses qui déjà sont bien épanouies, d'autres qui pourraient être améliorées, ou des défauts qu'on pourrait dissiper. Alors, est-ce qu'on peut changer? On peut se dire, oui, ben, c'est tellement ancré dans la pierre, notre génétique, etc. Il n'y a rien à changer, donc il vaut mieux relaxer à ce moment-là, prendre un bon verre de jus de pomme ou ce que vous voulez.
Ouais. Tiens, un jus de pomme, moi j'en prendrais bien un. Vous voulez autre chose?
Allez-y, alors un jus de pomme aussi, parfait.
S'il vous plaît, deux jus de pomme. Merci beaucoup.
Ouais, un garçon très bienveillant qui va nous amener deux jus de pomme. Bon, alors, en gros, si on peut changer, ça vaut la peine de le faire. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de transformation de notre esprit. Donc, comment est-ce qu'on change? Alors, j'imagine que quand vous étiez jeune, vous avez appris à lire et à écrire.
Oui.
Bon. Vous avez quelque chose que vous aimez bien faire et que vous avez
appris. La musique.
Ben voilà, la musique. Alors, la musique. Bon, quel instrument jouez-vous?
De la batterie.
Eh ben, la batterie. Le premier jour où vous êtes arrivé dans votre batterie, vous avez dit, c'est chouette, j'aimerais vraiment bien jouer, mais bon, c'était pas brillant, n'est-ce pas? Dans votre esprit, vous pensiez à des très grands batteurs, mais dans les faits, ça marchait pas comme ça, n'est-ce pas?
Non.
Et vous n'êtes pas dit, bon, ben, c'est pas compliqué, moi, je vais pas me rendre la vie difficile, je vais faire ça tous les samedis, 5 minutes, tous les samedis, et puis au bout d'un certain temps, vous allez voir ce que vous allez voir, ça va être formidable. Non, c'est pas comme ça, n'est-ce pas?
Ben oui.
Vous avez passé beaucoup d'heures.
Beaucoup d'heures.
Au début, c'était pas forcément rigolo. Néanmoins, il y avait un enthousiasme, pourquoi? Parce que vous voyez que vous alliez quelque part.
Ouais.
Vous imaginez le résultat qui est d'avoir plaisir à faire de la batterie, de plus en plus. Donc, c'est ce qu'on appelle un entraînement. C'est simple.
Oui.
C'est au cœur de toutes nos vies. Sauf que, souvent dans nos civilisations, bizarrement, on imagine que les qualités humaines fondamentales comme, justement, l'altruisme, comme l'attention, la faculté de faire attention aux choses, la résilience, l'équilibre intérieur, l'équilibre émotionnel, la paix intérieure, pourquoi pas, c'est donné à un certain degré, puis ça ne bouge plus. Donc ce qu'il faut, c'est de même qu'on apprend à lire, à écrire ou à jouer aux échecs, il faut cultiver ces qualités. Alors on n'a pas tous la même marge de manœuvre, on ne peut pas tous devenir des champions olympiques de l'altruisme. Moi je ne peux pas sauter de 2,40 m en hauteur, c'est exclu. Hein, surtout à 76 ans, mais même avant je n'étais pas bon le saut en hauteur. Donc il y a des limites, mais il y a une marge de manœuvre considérable.
Oui.
Et ça se fait avec l'entraînement. Alors l'entraînement, il y a l'entraînement physique, vous entraînez des biceps, vous faites des mouvements avec vos bras pendant des mois et des mois avec les haltères, vous êtes sûr que vos biceps vont grossir.
Oui.
Bon là, l'exemple est un peu matérialiste. N'empêche que si jour après jour, de même qu'on fait 20 minutes d'exercice physique 5 fois par semaine, on sait que c'est bon pour la santé, etc., contre le vieillissement, contre la dépression, plein d'études.
Oui.
Et si, par hasard, 10, 15, 20 minutes par jour d'entraîner son esprit à l'attention, à la présence attentive, à l'équilibre émotionnel, à la bienveillance, eh bien, au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, ça fait qu'on était plus attentif, un meilleur équilibre, un comportement prosocial magnifiée, ce serait pas mal, n'est-ce pas?
Oui, mais...
Ça s'appelle la méditation.
Ça s'appelle la méditation. Et vous savez, j'ai essayé, donc j'ai pris de l'encens. j'ai joint les mains. Pourquoi vous rigolez?
Ben non, non, mais
j'ai joint
bien.
Les mains comme ça.
Et vous avez trouvé un manguier auquel de s'asseoir.
J'ai dit des paroles en chinois que je ne comprenais pas. Franchement, ça m'a rien fait.
Oui, j'imagine.
Pardon, hein, ça m'a rien
non,
fait.
Non, mais ça encore, là, c'était prévu d'avance. Mais il y a d'autres gens, ben parce que c'est pas comme ça que ça marche.
Ah bon?
Ben oui, s'asseoir.
Alors, c'est quoi la méditation?
Alors oui.
Vous pouvez me. Allez, ben, dites-moi.
Allez,
on va
la méditation.
Faire un petit cours pratique.
Pour la démystifier. Le but de l'opération, c'est de transformer son esprit. Okay,
oui.
Donc pour ça, faire le vide, d'abord, ça ne marche pas parce que les pensées, vous n'allez pas les arrêter. Quand elles sont là, qu'est-ce que vous leur dites? Ah ben, vous n'auriez pas dû être là, ça ne marche pas. Bon, ce n'est pas la peine.
Ouais, je ne leur dis rien, c'est juste que elles me traversent l'esprit et j'ai fini par...
Bloquer les pensées, ça ne marche pas. Par contre, les gens vous disent, ça serait quand même bien, moi je m'assieds, j'ai l'impression que j'ai encore plus de pensées que d'habitude. Ça, c'est classique. Ce n'est pas qu'ils en ont plus, c'est qu'ils se rendent compte de l'étendue de la catastrophe. L'idée, ce n'est pas de les bloquer. Mais de ne pas tomber dans des automatismes mentaux. Par exemple, pourquoi est-ce que cette dame a fait ça dans le train, etc. Et alors, vous êtes là toute la journée, enfin quand même, elle n'aurait pas pu faire ça, et puis j'aurais peut-être dû lui dire ça, et puis, bon, qu'est-ce que ça fait? Réaction en chaîne.
Oui.
Au lieu que ça dure 5 minutes, ou enfin déjà une heure, toute la journée, vous êtes de mauvaise humeur. Dès que vous y repensez, crac, on appuie sur un bouton, ça repart.
Oui.
Donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un automatisme mental.
Oui.
Donc, la méditation, en tout cas, dans ce cas-là, c'est ne pas bloquer les pensées, mais ne pas non plus les laisser proliférer.
Envahir.
Envahir votre esprit et vous en donner l'esclave.
Alors comment on fait?
Il faut trouver un espace, disons, qu'on peut appeler présence éveillée, présence ouverte. Vous avez une pensée d'anxiété, de jalousie, de ressentiment, d'énervement, etc. Pourquoi m'a fait ça, ceci? Bon. Elle grandit, c'est comme ça envahit votre esprit. Mais vous pouvez la regarder. L'esprit a la faculté de regarder tout ça. Un peu comme on regarde un feu qui brûle, un feu de bois. Au lieu de rajouter des bûches, vous le regardez simplement. Finalement, il va brûler un certain temps, mais il va s'amenuiser jusqu'à s'arrêter.
Oui.
Il faut, c'est déjà pas rajouter des bûches. Donc, si vous voulez, vous créez un espace de présence attentive qui regarde, pleine conscience, appelez ça comme vous voulez. Et ce qui se passe, c'est que ça va perdre de sa présence, de sa puissance, de son intensité et de son impact sur nous, c'est-à-dire l'impact à nous troubler. Et finalement, vous serez dans un état de pleine conscience, tranquille. Donc, vous n'avez pas supprimé, essayé de réprimer quelque chose dans un coin comme une bombe à retardement. Vous n'avez pas pété les plombs.
Oui.
Vous avez intelligemment laissé ces choses se faire. Si on cultive ça par le temps, à un moment donné, c'est de plus en plus rapide. C'est un peu comme un oiseau qui traverse le ciel, il ne passe
pas. Oui.
Quand il va venir, vous allez laisser passer, ça va. Ça, c'est une façon. Mais vous parliez de la bienveillance. Alors là, c'est un peu différent, parce que la première, c'est la façon de gérer les pensées. Par contre, cultiver une qualité, c'est encore autre chose. Enfin, la bienveillance, on en parle, les bisounours. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous engendrez de la bienveillance, par exemple, pour votre fils. Vous l'aimez beaucoup.
Ah oui.
Ben voilà. Donc, ce que vous souhaitez à votre fils, c'est quoi? Puisse-t-il être heureux, s'épanouir dans l'existence? Puissent les obstacles lui être épargnés? Un amour inconditionnel, d'accord? Bon, vous prenez cet exemple envers quelqu'un pour qui c'est facile, plutôt que la personne avec qui vous disputez, sa maman ou autre chose, pour commencer. Ensuite, vous laissez ça envahir votre esprit.
Envahir l'esprit, ça veut dire
c'est-à-dire
quoi?
Que vous,
je mets des mots dessus.
Par d'abord, c'est les mots. Puisse-t-il être heureux, puisse-t-il souffrir. Mais en même temps, il y a une saveur qui vient, un ressenti.
D'accord.
L'amour, c'est pas simplement des paroles, des gestes physiques.
Oui.
C'est vous êtes plein d'amour vis-à-vis de quelqu'un. Quand même, on sait ce que c'est.
D'accord.
Se ressentir de l'amour, je dirais, bienveillant, pas de l'amour passion, romantique, etc. C'est un sentiment chaleureux. Ça me met de la chaleur au cœur. Il y a quelque chose, il y a un ressenti, un vécu.
Et je me concentre sur ce ressenti, c'est
ça ? Oui, parce que si vous vous imaginez la haine à la place, ce n'est pas du tout la même expérience. C'est une expérience. Donc il y a cette qualité que mon état d'esprit est un état d'esprit d'amour vis-à-vis de cet enfant.
Donc est-ce qu'on peut dire que la méditation, c'est quelque chose d'agréable ?
Une émotion positive comme la bienveillance, c'est quelque chose qui est en harmonie avec ce qu'on pourrait appeler notre nature profonde. On se sent bien, disons.
Oui.
On sent que c'est juste, on aimerait que ça dure.
Oui.
Et du coup, en le nourrissant, on aimerait que ça s'amplifie. Donc vous avez ce sentiment par rapport à votre enfant que vous aimez beaucoup. Ensuite, au lieu que ça soit juste 10 secondes, ce qui arrive souvent, puis après on est distrait, on fait autre chose.
Par notre pensée, oui.
Voilà, donc là, vous essayez de le cultiver pendant 10 minutes, 15 minutes. Si vous êtes distrait, vous y revenez, vous le faites renaître de nouveau. Vous le ravivez, vous avez plus de couleur, d'intensité, de présence. Donc c'est ce qui s'appelle maintenir pendant 10 minutes, ce qu'on ne fait jamais d'habitude. Vous faites des gammes de batterie, mais vous ne méditez pas sur l'amour pendant 15 minutes. Et si vous le faites, ça aura le même résultat que de faire des exercices de batterie. Au début, c'est comme de faire du vélo, ça peut sembler difficile et on fait des efforts et on y arrive mal. Et à un moment donné, on le fait bien sans effort. Quand on fait bien du vélo, on lâche les mains, on peut même regarder dans le ciel en sifflant, vous n'allez pas tomber.
Là, vous pouvez méditer dans le métro.
Oui, on peut, oui, oui, bien sûr. Mais méditer, ce n'est pas se sortir de l'environnement pour aller méditer dans sa tête. Et à un moment donné, on doit effectivement, sans faire des efforts, « Ouais, il faut que je médite, je suis dans le métro !» que naturellement, vous restez dans cet état de présence ouverte sans faire d'efforts. Donc à un moment donné, méditation et non-méditation se mêlent. C'est une sorte de manière d'être qui fait que vous n'êtes pas emporté par les pensées errantes, etc. Mais sans vous bloquer, ce n'est pas un truc artificiel. « Ah, oh, je ne veux pas que je sois distrait, attention, pas que j'ai de la colère. » C'est naturel. Ça s'acquiert, ça se cultive. Et le mot sanskrit pour la méditation « bhavana » veut dire « cultiver ». Bon, avec donc, ça, vous êtes bien parti.
Est-ce qu'on peut cultiver cette bienveillance en méditant sur des personnes qui nous font du mal,
oui,
mais dont on sait qu'elles souffrent elles-mêmes?
Voilà, bah on commence donc par votre fils, parce que c'est le plus facile, parce que sinon, c'est trop demandé.
Oui.
Ensuite, quand vous avez suffisamment de coffres, je voudrais dire, dans la bienveillance, cette pauvre personne, elle est malheureuse, elle est profondément maladroite, parce qu'elle n'arrête pas d'en remettre pour des choses qui lui font mal et qui font mal aux autres. Oh, la pauvre, franchement, qu'est-ce que je peux souhaiter au fond de mon cœur? Qu'elle aille mieux, qu'elle comprenne tout doucement. Je ne vais pas la forcer, mais si je pouvais, d'une façon ou d'une autre, directement, indirectement, contribuer à ce que ça se passe mieux, favoriser ça. Ah, j'espère que franchement, elle ira mieux. Ben ça, c'est de la bienveillance, ce n'est pas bisounours, c'est ce qui est le plus pragmatique en plus pour résoudre des conflits.
Oui.
Et ça, ça se cultive aussi. C'est une attitude. Pour moi, l'amour et l'altruisme, c'est de n'exclure personne de son cœur. Donc on peut aussi voir sur le long terme, parce que c'est toujours... On vous dit, oui, qu'est-ce que la méditation peut faire? Il y a un feu de forêt, tout. Attendez, c'est au moment de l'étincelle qu'il faut agir. Donc c'est au moment de la société, de l'enfance, de l'éducation.
Oui.
C'est pas quand tout est en feu qu'on dit, bah ouais, la méditation, elle ne sert pas à grand-chose. Hein. Ben, c'est trop facile.
Alors, si je résume ce que vous venez de me dire, la méditation, ça sert pour nous-mêmes à réagir constructivement face à des gens qui nous agressent. Mais ce n'est pas ça qui va faire changer les agresseurs.
Si on a l'occasion de passer suffisamment de temps avec eux, ce n'est pas impossible qu'on puisse faire quelque chose.
D'accord.
Okay. Au contact des gens, en les connaissant. Si Poutine avait un ami qui le prenne à part et peu à peu, en qui il ait confiance, ce n'est pas inimaginable. On a vu des gens dans des prisons qui avaient commis des meurtres multiples, qui ont complètement viré leur cutie. Moi, j'ai eu beaucoup de cas de gens qui étaient des leaders de gangs à Los Angeles et qui, après être en prison, ont totalement fait une espèce de tournant intérieur. Il y en a qui disaient, c'est comme si un mur s'écroulait. Je ressentais que de la haine. Et brusquement, je me suis dit, mais il faut que j'aide tous ces jeunes. Et quand il a été libéré, il a passé sa vie à essayer d'aider les jeunes à ne pas tomber dans la délinquance. Oui. Donc ça peut se faire, ça arrive, pas toujours, pas automatiquement. Mais on peut souhaiter ça. Oui. C'est mieux que ce type-là sorte et aide des jeunes à ne pas devenir des délinquants que de le condamner à mort et de l'envoyer sur la chaise électrique.
Donc il faudrait vous coller dans les pattes de Poutine pendant un mois.
Voilà, je le prends en charge.
On ne s'est même pas présenté. Moi, c'est Jean-Baptiste. Et vous, c'est quoi votre nom ?
Mathieu. Et puis, vous voyez là, le machin dans le bistrot, là, Ricard, oui. Le pastis. Là, ben voilà.
Mathieu Ricard.
Pour vous servir. Pour les intimes, c'est Moula Gaufre.
Moula Gaufre.
Oui, c'est mon copain qui m'a pris la photo. André Fatra, il m'appelait Moula Gaufre. Donc, c'est Moula Gaufre. Puis, ma maman m'appelle le Poulot. Donc, c'est Moula Gaufre, dit le Poulot.
Non, mais je te jure, genre, c'est un vieux con, ce mec.
Ouais, bah le vieux con, il supporte pas les plus fiers dans ton genre. Ok, alors pour la dernière fois, tu coupes ton portable et t'apprends à vivre en société.
J'aurais jamais dû réagir comme ça. Peut-être qu'à l'heure qu'il est, elle pleure de désespoir sur son lit à cause d'un patron qui la harcèle.
C'est toi qui fais chier tout le monde, là.
Allez, allez, c'est qu'une pièce de théâtre. Il faut que je me dise que je ne suis pas affecté. Qu'est-ce que je peux lui souhaiter de ne plus subir ce tyran de patron qui la harcèle.
Casse-toi, molosse.
Ressentir de l'amour, je dirais, bienveillant, ça peut mettre de la chaleur au cœur.
Allez, empathie, altruisme.
Nous sommes tous le jouet.
Elle n'est que le jouet de ses poisons mentaux. Puisse-t-elle retrouver un boulot qui lui plaît ?
Connard, va !
J'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais parce que je peux pas la porter dans mon cœur, celle-là.
Pour moi, l'amour et l'altruisme, c'est de n'exclure personne de son cœur.
Les jours passent, les semaines, les mois, comme toujours. Plus d'un an s'est écoulé depuis que j'ai décidé de retrouver une partie de mes racines. Penzance, c'est pourtant pas loin, géographiquement. Mais la distance n'est pas uniquement géographique. Elle est aussi dans le cœur, dans les souvenirs. Remonter le temps, c'est pas donné comme ça. Ça se désire, ça se rêve, ça se fantasme, ça se prépare. Bref, ça se mérite. J'ai toujours pensé que grandir, c'est redevenir enfant. Elle est longue, la route qui mène à l'enfance. On n'est plus obligé de se confiner. Bon, c'est déjà ça. Tantôt, on nous permet d'enlever les masques, tantôt on nous oblige à les porter de nouveau. C'est selon, en fonction des besoins des dirigeants. Par exemple, au moment des élections, on nous dit « tout va bien ». On peut sortir sans danger. Et oui, il est bien élevé le virus. Il a la décence de rester dans son coin quand il faut élire celles et ceux qui vont nous diriger. Il fait comme le nuage de Tchernobyl, qui s'était sagement arrêté aux frontières de notre pays. Et puis, une fois les élections passées, le virus redevient méchant. Achetez nos masques, achetez nos gels hydroalcooliques. Une chose me fait garder espoir, mon retour en Cornouailles. Tous les jours, c'est le rituel. J'appelle Eurostar, avec l'espoir qu'ils remettent leur train en service. Mais les jours passent, les mois, les années. Quelquefois, je perds espoir. Mais ce rituel me fait tenir.
Eurostar, bonjour. En raison des restrictions sanitaires, aucun train ne circule jusqu'à nouvel ordre. Pour plus d'informations, merci de consulter notre site internet. ne circule jusqu'à nouvel ordre. Pour plus d'informations, merci de consulter notre site Eurostar. Bonjour. En raison des restrictions sanitaires, aucun train ne circule jusqu'à nouvel ordre. En raison des restrictions sanitaires, aucun train ne circule jusqu'à nouvel ordre. Pour plus d'informations, merci de consulter notre site internet.